France Culture.
Entretien avec Francis Ponge par Philippe Solers. Aujourd'hui, sixième entretien, la peinture et les lettres.
Parti pris des choses, compte tenu des mots. Il me semble qu'il y a un malentendu sur l'ensemble de votre travail qui vous fait présenter souvent comme quelqu'un qui s'occupe exclusivement des choses, qui décrit des choses, ce qui amène d'autre part souvent l'accusation d'anthropomorphisme, parce qu'on trouve que dans cette description des choses, vous n'êtes pas absolument rigoureux, mais que vous introduisez évidemment des éléments humains, des références sensibles à l'existence de l'humanité en général. Évidemment, ce malentendu vient d'un contresens sur l'interprétation de vos textes. Je voudrais insister sur un point. Il me semble très significatif que, quand vous décrivez la manière dont vous écrivez, vous tracez, au fond, une configuration où l'auteur, le lecteur et le texte forment une espèce de triangle. À ce triangle d'écriture, il me semble qu'il faudrait faire correspondre un autre triangle qui serait celui de l'écriture textuelle elle-même, celle du monde dit concret ou physique, et un troisième terme dont j'aimerais que vous nous parliez maintenant, qui serait celui des tableaux, des peintures, c'est-à-dire des œuvres significatives, mais muettes, qui sont introduites dans ce triangle, dans cette configuration, comme une sorte de relais ou de médiation par rapport au système d'ensemble. Je voudrais que vous nous expliquiez comment il se fait que c'est au moment même, je crois, où la peinture prend ce rôle dans ce que j'appelle le système de configuration de votre écriture, que vous tentiez par ailleurs un exercice oral. La tentative orale doit dater à peu près du moment où vous commencez à vous intéresser de très près aux peintres. Et comment se produit donc un glissement, une métamorphose entre une relation simplement binaire, c'est-à-dire celle qu'on peut envisager comme étant la vôtre dans le parti pris des choses, dans une sorte de glissement, dans une sorte de relation plus complexe où vous allez à la fois tenter de parler, d'écrire sur la peinture et continuer par ailleurs des textes ouverts.
Oui. Comme chaque fois, il se trouve que vos questions sont telles que je peux, moi, me référer à mon histoire, à la réalité de ce que j'ai fait, et au concret, si vous voulez, de la situation. En fait, il est exact que c'est vers ce moment, n'est-ce pas, c'est-à-dire à la fin de la guerre et commencement de l'après-guerre, que j'ai commencé à écrire sur la peinture. Et très peu de temps après qu'en effet, j'ai fait ma première tentative orale qui a donné lieu ensuite à une grande quantité de conférences, de textes oraux, enfin, qui ont été plus ou moins publiés ensuite. Le fait est, alors si je me rapporte à mes souvenirs, que si j'ai commencé à connaître physiquement les peintres et les plus grands peintres de l'époque, enfin Picasso, Braque, Fautrier, Dubuffet, etc., eh bien, cela a commencé par être à cause du parti pris des choses, n'est-ce pas? Le parti pris des choses a été, m'a-t-on dit, et j'ai pu le vérifier, aimé par ces peintres. On m'a beaucoup dit que ces textes étaient soumis, je crois que c'est dans l'essai de Sartre aussi, à la vision, n'est-ce pas? C'est-à-dire que la bougie, la cigarette, l'huître, etc., comme je les traite, aurait pu aussi bien être des tableaux que des textes. Alors là, je m'élève violemment, n'est-ce pas? Ils sont des textes qui n'ont absolument pas la moindre nécessité d'illustration même. Et il a été question à un moment donné de faire une édition illustrée du Parti pris des choses, n'est-ce pas? Et on m'a demandé qu'est-ce que je souhaitais. Ben, j'ai dit des vignettes, comme dans le dictionnaire, ou des photographies. Voilà ce qui me paraît le plus proche, et non pas du tout des illustrations. Mais le fait est que les peintres, probablement parce que nous sommes dans la même situation vis-à-vis du monde extérieur et du monde social que d'autres artistes, n'est-ce pas? Les peintres se sont intéressés et ont aimé ces textes, pratiquement. Il se trouve que j'ai connu Picasso assez rapidement, parce qu'il avait aimé ça, et aussi j'ai connu Braque par Paulhan, parce qu'il avait aimé aussi le Parti pris des choses. Et j'ai connu Fautrier, j'ai connu Dubuffet pour les mêmes raisons, voilà. Bon, mais il est un fait que j'ai été amené à écrire sur eux. Et j'ai été amené à écrire sur eux pour deux raisons. D'abord, une raison tout à fait pratique, c'est que, en général, enfin, ces textes de commande sont des textes payés. Alors ça, il faut être réaliste, et il est certain, et ça nous en avons traité dans l'entretien avec Breton et Reverdy, il est certain que la situation des peintres par rapport à celle des écrivains est tout à fait différente. Mais que les écrivains en profitent et que, Dieu sait pourquoi, les peintres veulent aussi profiter des écrivains, c'est-à-dire qu'ils ont besoin, en quelque façon, qu'on parle de leur peinture, peut-être par goût des poètes. Picasso m'a souvent dit « Ah, j'ai toujours aimé être avec des poètes ». Aussi bien avec Apollinaire avant qu'avec Éluard ou avec vous, etc. Mais aussi peut-être parce que la peinture telle qu'elle se présente actuellement, enfin, et qu'elle se présentait déjà à ce moment-là, et qu'elle se présentait déjà depuis un certain temps, était quelque chose d'assez spécial, n'est-ce pas? C'est-à-dire quelque chose, je l'ai dit dans une dédicace à Picasso, dans mes textes, c'était comme le drapeau de l'offensive intellectuelle, n'est-ce pas? Les tableaux sont quelque chose comme des drapeaux. Et il est certain qu'un homme comme Picasso peut être considéré comme un porte-drapeau de l'offensive intellectuelle, offensive de toute façon, n'est-ce pas? Aussi bien morale que proprement littéraire. Morale, art de vivre, n'est-ce pas? Et art de vivre comme individu et art de vivre comme individu social. Il est certain, alors là, qu'il faut faire intervenir la situation de ce qu'on peut appeler en gros les artistes. Je sais bien qu'on n'aime pas ce mot, que c'était un mot interdit dans la génération surréaliste. Enfin, disons, les gens qui travaillent, des ouvriers, des artisans, n'est-ce pas, qui travaillent avec un moyen d'expression, n'est-ce pas? Eh bien, il est certain que le moyen d'expression des peintres et le moyen d'expression des écrivains est parfaitement différent, que c'est pas du tout le même, mais il est certain que les vertus, la morale, si vous voulez, d'un homme, d'un ouvrier qui travaille dans ce genre d'atelier ou de laboratoire, si vous voulez, on peut évoquer aussi les savants, naturellement, et beaucoup de peintres sont aussi des hommes de science, n'est-ce pas? Et il est certain que, par exemple, une partie de l'œuvre de Picasso, une partie de l'œuvre de Braque, une partie de l'œuvre de Fautrier, une partie de l'œuvre de Paul Klee, eh bien, c'est quelque chose comme du travail de l'ordre scientifique, n'est-ce pas? Eh bien, il est certain que se lier dans la camaraderie avec des hommes qui travaillent dans une technique qui n'est pas la vôtre, mais qui ont exactement la même situation par rapport aux formes anciennes de pensée et à ce qu'on peut peut-être chercher à faire dans l'ordre de l'avenir, est quelque chose d'utile. C'est dans ce sens-là que j'ai aimé connaître les peintres et que je me suis même reproché de ne pas les avoir contactés plus tôt. J'ai souvent dit, à propos de Braque en particulier, qu'un peintre comme Braque était actuellement plus utile et plus efficace dans l'ordre de la révolution culturelle, si vous voulez encore, si un mot encore plus récent, ou dans l'ordre de l'offensive intellectuelle vers l'avenir, n'est-ce pas, que n'importe quel philosophe, ou que n'importe quel religieux, ou que n'importe quel maître, ce qu'on appelle en général maître à penser ou maître de vie, comme disent les gens de l'Extrême-Orient. Je pense que la façon dont ces artistes, ces artisans, parce qu'il faut insister sur le côté artisanal, ce côté ouvrier de la chose, vivent, mettant de côté le fait qu'ils sont en général très fortunés, n'est-ce pas ? Mais les meilleurs continuent à travailler. Enfin, il est certain que Picasso, qui n'aurait absolument pas besoin de travailler depuis de très longues années, il pourrait simplement se borner à exploiter son histoire, n'est-ce pas ? Ou Braque, la même chose. Eh bien, que Picasso, par exemple, je ne sais pas ce qu'il fait maintenant, mais il y a quelques années, quand je le voyais beaucoup, il se relevait la nuit pour faire des bars. Il se relevait la nuit pour faire des exercices de main dans l'obscurité, etc. Il était comme quelqu'un qui serait Victor Hugo ou Chateaubriand et qui recommencerait, comme un enfant qui ne sait pas écrire, à faire des bars chaque nuit. Voilà, c'est quelqu'un comme ça, n'est-ce pas ? Eh bien, il est certain que cette proximité de la situation vis-à-vis des formes de civilisation et de pensée anciennes nous rapproche infiniment des peintres. Et que comme les peintres donnent des drapeaux, comme j'ai dit, ou des signes visibles, par définition, et c'est du visible, n'est-ce pas, de l'offensive actuelle, il y a quelque chose là de fascinant, et il y a quelque chose que l'on suit comme on suit un drapeau, hein, que l'on suit, c'est une façon de parler. Je ne pense pas du tout qu'il faille suivre les peintres. Je pense seulement, et je l'ai dit, qu'au moment où s'est préparée à éclater, n'est-ce pas, la révolution que j'appelle la révolution de 70, c'est-à-dire au moment de Rimbaud, au moment de Lautréamont, et plus tard continué par des gens comme Mallarmé, eh bien, il y a eu, à ce moment-là aussi, dans la peinture, une mutation profonde qu'on peut dater de Manet, ou bien on peut faire dater la révolution avant Rimbaud de Baudelaire, et par l'école de Paris, par les impressionnistes et tout ce qui a suivi, n'est-ce pas ? À ce moment-là, étant entendu que cela ne fait que faire partie d'une mutation beaucoup plus importante qui est signifiée également par les événements sociaux et politiques et également par les événements comme, naturellement, les révolutions du XIXe siècle et comme, mettons, la Commune de Paris aussi et, par ailleurs, que dans les sciences, la mutation de la physique, de la géométrie, etc. J'exprime tout cela généralement de la façon la plus peut-être simpliste, mais qui généralement permet de se faire comprendre. Il se trouve que vers l'époque dont je parle, on a commencé à ne plus enseigner la rhétorique dans les lycées et les collèges. Mon père déjà ne faisait plus de discours latins et on n'enseignait plus la rhétorique, c'est-à-dire l'art d'émouvoir ou de convaincre, n'est-ce pas ? On ne faisait plus parce qu'on ne l'avait pas compris, mais enfin, c'était comme si on l'avait compris. La rhétorique ancienne ne fonctionnait plus. Enfin, il n'était plus évidemment possible d'émouvoir ou de convaincre selon les modes de la rhétorique ancienne. Qu'est-ce que c'était que les figures, par exemple, de cette rhétorique ancienne ? Eh bien, c'était l'ellipse, l'hyperbole, la parabole, etc. Or, il se trouve que ces figures ont le même nom et sont pratiquement la même chose que les figures de la géométrie d'Euclide. N'est-ce pas ? Les figures, ellipse, parabole, hyperbole, tout cela, ce sont des figures de la géométrie euclidienne. Donc, on a vécu, l'homme a vécu dans la civilisation occidentale depuis 2-3 millénaires sur des figures de rhétorique qui sont les mêmes que les figures de géométrie. Tout cela date de Thalès et d'Euclide, n'est-ce pas ? Et il se trouve que maintenant, on sait bien que la géométrie actuelle n'est plus la géométrie euclidienne. La physique, la même chose. On ne vit plus sur la même physique. Il se trouve que le monde n'est plus compris, que les relations d'homme à homme et d'homme à monde, on ne peut plus du tout en rendre compte, on ne peut plus du tout y vivre, on ne peut plus voir le monde, on ne peut plus agir dans le monde selon ces règles et selon ces figures. La même chose, naturellement, pour l'art et pour les lettres, pour la rhétorique et tout cela. Tout cela a changé. Nous vivons, depuis un peu moins d'un siècle, une sorte de révolution dans la conception de l'homme par l'homme et du monde par l'homme qui n'a rien d'égal, n'est-ce pas, depuis plusieurs millénaires. Des choses comme l'arrivée du christianisme, des choses comme la Renaissance sont des événements beaucoup moins importants parce qu'ils se placent encore à l'intérieur, civilisation occidentale, de la géométrie et de la rhétorique des Grecs, n'est-ce pas ? Nous en sommes là.
Je pense ici à la phrase de Marx, bien entendu. Il ne s'agit plus d'expliquer le monde, mais de le changer. une phrase qui revient sous une forme ou sous une autre dans beaucoup de vos écrits. Il ne s'agit donc plus de donner une interprétation du monde, une représentation du monde. Il y a une sortie massive de la représentation dans tous les domaines, dans celui de la peinture que vous venez d'évoquer. Il n'y a plus non plus valorisation de l'objet fini, de la production de l'objet produit, mais en quelque sorte accent, accentuation mise sur la production elle-même. Et je voudrais vous demander comment, dans cet exemple que vous êtes allé chercher dans la peinture, dans ce travail permanent sur lequel vous venez d'insister, comment, d'autre part, quelque chose comme la tentative orale fait partie de la mise en scène de cette production.
Oui, il est certain que les peintres, je l'ai dit dans plusieurs textes, en particulier dans un texte sur Braque, travaillent à changer, au moins notre représentation du monde, mettent l'accent sur le travail que cela représente, n'est-ce pas ? Et que le moyen d'expression prend beaucoup plus d'importance que l'objet représenté, naturellement, mais encore que le tableau lui-même, il faut qu'il soit présent, n'est-ce pas ? Il faut que le travail soit sensible et présent dans l'œuvre elle-même. Ce que je peux dire à ce propos-là, c'est que, par exemple, Picasso, qui avait aimé, m'avait-on dit, le Parti pris des choses, a préféré encore mes textes de la rage de l'expression, qui sont des textes dans lesquels je mets sur la table le travail littéraire, n'est-ce pas ? Et quant à la tentative orale, oui, vous avez raison. Il m'a semblé qu'une façon d'exemplifier cette primauté du travail, d'opération dans l'acte, que l'acte de l'artiste, si on veut, était une sorte d'opération, comparable en une certaine façon à une activité militante, n'est-ce pas ? En gros, je l'ai dit aussi, je pense qu'il ne devrait y avoir que deux sortes d'hommes, de ceux qui ont conscience de la nécessité, qui est encore une chose, une fois de la force des choses et la force du temps, n'est-ce pas ? Il ne devrait y avoir place que pour les militants, à proprement parler, les militants de l'action qui agissent sur les groupes humains, et ça, c'est pas mon affaire, et d'autre part, les militants qui travaillent pour changer les figures qui permettent de se voir et de se comprendre dans le monde, les figures, à proprement parler. Alors, de ce point de vue, je pense qu'au lieu de faire de l'acte théâtral de révolte, comme faisaient par exemple les surréalistes, je dirais même de l'acte théâtral d'Artaud, n'est-ce pas, le théâtre de la cruauté, faisant intervenir le spectateur, le provoquant, le mettant. Je pense que ce que j'ai fait en commençant à parler beaucoup, c'est-à-dire en acceptant de faire des conférences et les faire comme je l'ai fait, c'est-à-dire absolument dans le moment même, sans avoir quasi rien préparé, et en tenant compte de l'atmosphère de la salle, du moment présent, de la figure de l'auditeur que je regarde à ce moment-là, d'improviser absolument ma parole est quelque chose de plus efficace, n'est-ce pas ? De montrer comment un animal, un homme, dont une des fonctions est de parler, eh bien, comment il parle, pourquoi, qui il est à ce moment-là, qui est la personne qui l'écoute, concerner directement l'auditeur et montrer le travail, montrer le développement de l'esprit, accepter tout ce qui vient à ce moment-là, naturellement les scrupules montant en même temps que les audaces, si bien qu'on ne fait pas tout simplement du bafouillage, on en fait, mais quand on bafouille, on dit « je bafouille ». Et en général, les auditeurs sont très contents, enfin ils sont très contents d'être dans le moment présent et d'être concernés directement. Ils écoutent, peut-être attendent-ils qu'on dise enfin quelque chose, mais il ne s'agit pas tellement de dire au sens d'avoir dit. Il s'agit de dire au sens de dire, c'est-à-dire de parler dans le moment présent, comme homme, comme animal, dans le moment présent, et de montrer comment les choses se font dans le moment même, de créer la communication directe.
Thank you.
Vous venez d'entendre le sixième de la série des entretiens avec Francis Ponge par Philippe Solers. Aujourd'hui, la peinture et les lettres. Assistant Jacques Devin. Lundi 1er mai à 22h40, septième entretien, pratique et théorie, parti pris des choses, proème.